16h09 en temps universel. Tout de suite, vous retrouvez Radio Foot International et ce journal sur le site françaisfacile.rfi.fr.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Elle est née sur un voilier en plein océan, mais sa mère s'est enfuie avec elle encore.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Hier, on était avec Fabien et Victor qui nous ont parlé de leur voyage solidaire à vélo entre Angers et Valence. D'ailleurs, on vous a mis le lien vers la cagnotte dans la description du podcast sur le site internet. Demain, on sera avec le Quai CDN. Et aujourd'hui, on plonge au cœur d'un enjeu crucial, l'avenir de notre source la plus précieuse, l'eau. Alors, il y a des inondations, des sécheresses, la qualité des milieux aquatiques. Face aux défis climatiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut agir à notre échelle? Et surtout, qu'en disent les experts? Pour parler de tout ça, ce soir, on sera avec Xavier Mettet, directeur de France Nature Environnement des Pays de la Loire, qui nous expliquera tout ça dans quelques instants. Ce soir, on aura aussi la chronique d'Adrien. Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
De quoi tu vas nous parler ce soir?
Je vais vous parler de ma muse Donald Trump.
Super, et bien rendez-vous en deuxième partie d'émission pour découvrir tout ça. On se quittera aussi ce soir avec un nouvel épisode du Synops. Et Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette, sur Radio G.
Et juste avant de commencer notre émission du soir, petite information, la salle Camille Lepage de la Maison de Quartier des Hauts de Saint-Aubin va organiser un concert ce samedi 26 avril au programme de la pop rock avec Toucan Toucan de l'alternative Airbnb avec Chris Théodian. Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur le site de la Maison de Quartier des Hauts de Saint-Aubin. Et nous, on peut tout de suite accueillir notre invité du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Je le disais donc en début d'émission, ce soir on parle de l'eau et de son avenir avec Xavier Mettet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de France Nature Environnement des Pays de la Loire et en ce moment jusqu'au 25 mai, il y a une consultation du public qui est en cours concernant donc l'avenir de l'eau dans le bassin de Loire-Bretagne. Tout le monde est invité à y répondre, mais peut-être avant de parler de cette consultation, on peut peut-être brièvement représenter qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs France Nature Environnement, Xavier.
Eh bien, c'est une fédération régionale d'associations qui réunit plus de 100 associations locales en région Pays de la Loire. On est basé à Angers et on travaille pour la défense de l'environnement de différentes façons, tant sur la sensibilisation du grand public que sur les actions en justice, sur les actions d'inventaire naturaliste avec nos associations membres. Et on travaille surtout auprès des décideurs régionaux ou locaux pour faire avancer la cause environnementale dans les différents projets et actions régionales.
Et alors, depuis quand l'antenne régionale, elle existe?
Eh bien, on a été créé en juillet 2008, donc ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on existe en région Pays de la Loire.
Et du coup, quelle est sa mission principale? Si on détaille un peu concrètement, qu'est-ce que fait la FNE?
Eh bien, sur tous les dossiers où on va parler d'environnement, c'est très large, hein, dès qu'il va y avoir des questions de déchets, d'énergie, d'eau, d'agriculture, de transport, d'urbanisme, etc. Oui, les enjeux environnementaux sont là. Et FNE et son mouvement en région Pays de la Loire peut intervenir auprès d'associations locales, auprès de riverains qui nous sollicitent pour porter la cause environnementale au plus haut et faire en sorte que l'environnement soit mieux pris en compte dans les politiques locales. Alors ça peut être dans un document d'urbanisme, ça peut être sur un projet d'aménagement d'une zone urbaine ou d'une route, ça peut être sur tout ce qui va être aujourd'hui les énergies renouvelables, les parcs éoliens, les parcs photovoltaïques, la méthanisation, tous ces sujets-là, on les travaille, on essaye de faire en sorte que l'environnement soit bien pris en compte et qu'on arrive aussi à réaliser la transition énergétique sur nos territoires, sur l'urbanisme durable, etc.
Alors on peut peut-être donner des exemples concrets. Quels ont été les grands combats qui ont été menés ces dernières années par la FNE?
Bon, on va en parler tout à l'heure. Il y a la question de la qualité de l'eau, donc tout ce qui va être la ressource en eau, la protection de la ressource en eau est un grand débat de combat depuis de nombreuses années. Après, on a effectivement le zéro artificialisation nette, donc comment on urbanise mieux et différemment nos territoires pour faire face à la transition écologique et mieux préserver les terres naturelles et agricoles. Il y a le combat aussi d'avoir une alimentation saine et de qualité, donc tout ce qui va être une agriculture de qualité, de proximité, de saison. Donc c'est des sujets sur lesquels on se bat, notamment en Maine-et-Loire. Et puis on a toute la question des produits phytosanitaires. On se souvient du scandale du métham-sodium dans la vallée de l'Authion. Ben voilà, nous on avait été partie prenante de ce dossier-là en portant plainte et en suivant ce dossier pour faire en sorte que cette molécule soit interdite en France, ce qui a été le cas par exemple.
Et alors la FNE, elle est composée de bénévoles, j'imagine. Quelle est leur place dans la structure ?
La place qu'on a dans toute association de bénévoles, elle est cruciale parce que c'est eux qui sont responsables de la gouvernance, de faire vivre l'association. Alors une fédération régionale, eh bien, ce sont des représentants de nos fédérations départementales qui siègent dans notre conseil d'administration. Et puis on peut s'appuyer sur plus d'une centaine de bénévoles actifs au niveau régional qui nous représentent dans des commissions, dans des réunions ou qui animent des stands ou qui vont animer des conférences par exemple.
Ils ont un rôle peut-être de sensibilisation, ils font beaucoup d'actions de terrain.
Alors on a effectivement des bénévoles qui sont plus dédiés à la sensibilisation du grand public, qui vont animer les stands, qui vont faire des sorties naturalistes, des sorties nature, qui vont parfois même aller auprès de groupes scolaires ou de centres de loisirs pour toucher le jeune public et les sensibiliser, tant que ce soit sur les thématiques de gestes de tri ou de découverte de telle ou telle espèce naturelle ou de milieu naturel.
Quel partenariat vous avez avec les collectivités et l'État ? Est-ce que vous entretenez un lien avec eux ? Il y a des actions de mise en place ?
Alors on travaille tous les jours effectivement avec les services de l'État en matière d'environnement et avec les collectivités puisque ce sont eux qui mènent un grand nombre de projets sur lesquels on se sent obligé d'intervenir pour une meilleure prise en compte de l'environnement. Donc on a des échanges techniques, des échanges politiques. Puis certains de ces acteurs-là sont aussi nos partenaires financiers. Donc on mène des actions via ces collectivités ou ces services de l'État pour mieux porter le message de protection de l'environnement.
Est-ce que vous avez peut-être aussi des liens avec des entreprises ?
Oui, tout à fait. On accompagne notamment un certain nombre d'entreprises dans leur politique RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Là aussi, les entreprises se doivent de respecter le code de l'environnement, le code de l'urbanisme. Donc ça, c'est le minimum pour nous. Et donc, on les encourage à faire plus. Et dans certains cas, on les rencontre, on les accompagne, on discute et parfois même, on travaille avec elles sur certains plans d'action.
Et comment vous assurez que les citoyens soient bien représentés dans vos actions ?
Mais notamment, voilà, nous, on est une association qui, nous sommes les porte-parole de la société civile. Donc, c'est vrai que en région Pays de la Loire, on a plus de 45 000 adhérents dans nos associations locales. Nous sommes une centaine d'associations. Donc, 45 000 personnes qui payent une adhésion, qui se retrouvent dans notre plaidoyer, dans notre façon de travailler. Donc, ça fait déjà tout un grand nombre de personnes qui sont déjà sensibilisées, mais qu'on arrive aussi à monter en expertise, en compétences. Donc, on organise des formations ou de l'information interne à nos bénévoles pour qu'ils puissent être eux-mêmes des porte-parole liés à l'actualité d'aujourd'hui. Voilà, par exemple, il y a 10 ans, on ne parlait pas des PFAS dans l'eau, etc. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un nouveau sujet pour un certain nombre de citoyens. Et ben, nos bénévoles, on va les monter en compétence sur ce sujet-là pour qu'ils puissent être en capacité d'en parler auprès d'amis, de voisins ou même auprès d'élus de leur territoire et de faire de la sensibilisation localement.
Est-ce que vous avez remarqué une évolution de l'engagement citoyen sur ce sujet, sur le sujet de l'eau et la nature ?
Alors oui, alors en tout cas, il y a un engagement citoyen pour une vraie prise en compte de ces enjeux-là. Je veux dire, le gros travail qu'on a pu mener ces 20 ou 30 dernières années a porté ses fruits sur le fait que les gens savent que ça existe, savent qu'il y a des problèmes, savent aussi comment agir différemment dans leur vie, dans leurs achats, dans leur mode de vie. Après, effectivement, c'est parfois compliqué parce qu'il y a toujours des injonctions contradictoires que chacun peut avoir entre est-ce que je fais ça et ça a un impact sur l'environnement ou est-ce que je peux faire différemment ? Oui, mais ça a tel prix, oui, mais ça va être plus compliqué ou au contraire, ça va, etc. Donc on est voilà, donc c'est toujours compliqué. Et puis le citoyen doit toujours faire plus parce qu'effectivement il y a une urgence environnementale qui est de plus en plus prégnante. On parle du changement climatique, de la disparition de biodiversité. Donc on faut pas qu'on tombe non plus dans une espèce d'éco-anxiété qui va faire que les gens ne bougent plus, ne réagissent plus. Mais il faut agir positivement. Et c'est comment réussir à faire passer des messages positifs en disant aux gens voilà, si vous changez tel comportement, c'est pas pour vous compliquer la vie, c'est pour justement être plus positif et vivre dans un monde meilleur, un monde vivable.
Xavier Mettet, vous restez avec nous. On continuera à parler de tout ça juste après, notamment de la consultation publique qui est en cours. Mais juste avant tout ça, on va écouter une petite musique sur le 101.5 FM. On écoute La Flamme.
Écoute ça!
Écoutez La Flamme de Sinsemilla sur le 100.5 FM et vous êtes toujours à l'écoute de Topette. On est avec Xavier Mettet, directeur de France Nature Environnement des Pays de la Loire, pour parler de l'eau. Et maintenant, si on parle d'un sujet d'actualité très concret qui est au cœur de vos préoccupations, la gestion de l'eau et donc la consultation publique qui est en cours sur le bassin Loire-Bretagne, c'est jusqu'au 25 mai. Concrètement, Xavier, pourquoi cette consultation publique, elle est importante ?
Alors, elle est importante parce que ça va permettre à chacun, à n'importe quel citoyen, de s'exprimer, de donner un avis sur ce qui est considéré comme étant les grandes questions concernant l'eau à l'échelle du bassin Loire-Bretagne. Alors, le bassin Loire-Bretagne, c'est une configuration géographique liée au fleuve de la Loire. Et c'est donc tout le territoire concerné par le bassin versant de la Loire. Ça va effectivement de la source de la Loire dans l'Allier jusqu'à Saint-Nazaire. Puis on englobe la Bretagne parce que sinon ils étaient un peu tout seuls. Donc on est sur un bassin versant Bretagne, Loire-Bretagne. Et c'est l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui met en place cette consultation du public pour nous poser des questions et nous demander nos avis sur quelles devraient être les priorités sur lesquelles on devrait travailler dans le prochain schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le SDAGE, schéma directeur, qui va être en cours d'écriture, de réécriture à partir de 2026.
Alors concrètement, comment ça se passe ? Il y a des questions auxquelles il faut répondre ? On donne son avis, c'est pas des aspects trop scientifiques.
Non, c'est justement pas scientifique, c'est un document qui est assez vulgarisé et qui permet justement de bien comprendre les questions qu'on nous pose. Alors il y a un site internet de la consultation qui est en ligne, je vous le mettrai sans doute dans le podcast où
on le mettra effectivement.
Il sera accessible et en allant sur ce site internet, on arrive sur un questionnaire mais aussi sur des documents qui viennent expliquer les différentes thématiques qui sont abordées dans le questionnaire. Donc si on veut en savoir plus, on peut aussi en savoir plus. Et ce questionnaire pose une grosse dizaine de questions et en nous disant est-ce que ce sujet-là pour vous est important, peu important, pas du tout important pour est-ce qu'on doit travailler dessus.
Et est-ce que vous avez l'impression que le public est assez informé sur cette démarche qui existe ou justement on n'a pas trop connaissance de ça?
Alors, voilà, on peut dire qu'on n'a pas trop connaissance de ça, parce que c'est quelque chose qui se passe assez loin du territoire angevin, par exemple, assez loin de nos préoccupations de tous les jours. C'est une consultation qui a démarré au mois de décembre, mais qui court justement jusqu'au 25 mai. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour en parler, c'est pour le faire connaître, parce qu'il y a eu quelques articles dans la presse, mais en dehors de ça, effectivement, peu de gens en ont entendu parler. Et puis, il faut aller sur un site internet, il faut aller chercher un questionnaire, répondre en ligne. Voilà, alors nous on a fait un micro-trottoir il y a quelques semaines sur Angers, justement en posant des questions à des personnes sur les questions de l'eau. Alors aucune ne savait qu'il y avait cette consultation en cours. Et puis on a bien vu dans les réponses qui étaient données que les citoyens, finalement, même s'ils sont sensibilisés à l'école, même s'ils écoutent les informations, qu'il y a des questions d'actualité sur les enjeux de l'eau, hein, vous avez cité tout à l'heure les sécheresses, les inondations, mais c'est des choses qui rapidement deviennent scientifiques, vous l'avez dit aussi, et peut devenir complexe. Et nous, notre envie en tant qu'association de protection de l'environnement, c'est de pouvoir vulgariser les choses, de rendre simple la compréhension des enjeux et de permettre aux personnes, à tout citoyen, de répondre à ces questions en connaissant, en maîtrisant un peu plus les sujets.
Est-ce que vous avez remarqué pendant ce micro-trottoir que les citoyens se sentaient concernés ou pas vraiment? Ou finalement, ils ont quand même conscience que c'est leur avenir, un vrai enjeu?
Alors, tout le monde, enfin tous les gens qu'on a pu interroger, effectivement, savent que l'eau est un bien précieux, est un bien commun. Alors, ils l'expriment avec leurs mots à eux, hein, voilà. Mais on sent bien qu'ils ont bien compris que l'eau du robinet, l'eau dans le milieu naturel, était polluée, subissait des pressions, qu'il fallait faire attention à cette eau, effectivement, dans son cycle, dans le grand cycle de l'eau, qu'il pouvait y avoir des enjeux, des tensions, des pollutions. Alors après, voilà, quand on creuse un peu plus, ben voilà, ils parlent de sujets de pollution industrielle, de pollution agricole, mais ils ne savent pas trop quel est le rôle d'une station d'épuration, ils ne savent pas comment est nettoyée l'eau qui arrive au robinet, ils ne savent pas quand ils tirent la chasse d'eau, mais finalement l'eau, comment elle est traitée derrière, où est-ce qu'elle va, est-ce qu'elle retourne dans un tuyau, ou est-ce qu'elle retourne dans la rivière. Voilà, donc il y a ces notions-là qui sont un peu compliquées, mais on a bien vu que c'était un sujet d'inquiétude aussi.
Et est-ce qu'il y a déjà des propositions ou des pistes d'action qui peuvent être mises en avant, mises en place par la suite?
Alors, il y a beaucoup de pistes, hein, d'action, justement, pour mieux protéger la ressource en eau. On part pas de rien. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau à l'échelle de la Loire-Bretagne n'en est pas à sa première édition. Il y a eu déjà plusieurs documents qui ont mis des objectifs, hein, et puis l'Union européenne nous avait mis un objectif d'avoir X% de nos masses d'eau et de nos rivières en bon état écologique en 2015. On est en 2025. On a un peu raté le coche parce qu'en région Pays de la Loire, on est toujours à 11% seulement des cours d'eau et des masses d'eau qui sont en bon état écologique. Ça veut dire qu'on a quand même presque 90% qui sont en état moyen, voire mauvais ou médiocre. Donc on est vraiment les mauvais élèves sur le bassin Loire-Bretagne, hein, parce que souvent on parle de la Bretagne, des problèmes d'algues vertes, de qualité de l'eau. Ils ont une meilleure eau sur leur territoire qu'en Pays de la Loire, donc on est loin derrière. Donc ça pose des questions. Alors après, on n'a pas attendu d'avoir ce diagnostic qui est régulièrement fait pour voir l'avancée, pour se donner des objectifs. Alors 2015, on avait maintenant des objectifs à 2027, 2035, pour essayer d'atteindre une meilleure qualité de l'eau. Et sur le terrain, les collectivités, les industriels, même les agriculteurs ont avancé et ont changé la façon de travailler pour permettre justement d'avoir moins de pression sur l'eau. Mais on hérite d'un milieu naturel qui a subi tellement de pression ces 30, 40, 50 dernières années que c'est pas en replantant une haie, ce n'est pas en faisant des petits travaux par-ci, par-là qu'on va réussir à rattraper tous les dommages qui ont été créés. Alors oui, il faut le faire. Oui, il faut planter des haies. Oui, il faut restaurer des mares et des zones humides. Mais il faut surtout arrêter de couper des haies, il faut surtout arrêter de remblayer, de détruire les zones humides. Voilà, donc au fait, d'un côté, on fait mieux, hein, dans nos politiques d'aménagement du territoire, où les agriculteurs diminuent la pression des engrais azotés ou des produits phytosanitaires, des pesticides, mais on a tellement matraqué notre sol, tellement arraché de haies, tellement mis de produits phytosanitaires, de pesticides dans nos sols, qu'il va falloir des années pour que tout ça retrouve un équilibre positif.
Et alors, quel va être le rôle de la FNE des Pays de la Loire? Est-ce qu'elle va mettre en place des actions? Est-ce qu'elle a pour but d'aider les politiques à trouver des pistes, des sujets d'amélioration?
Alors, il y a deux façons de travailler. Il y a la façon, justement, là, à travers cette consultation. Nous, on a répondu au questionnaire avec notre vision à nous d'association, et vous trouverez sur notre site internet une proposition de réponse qu'on propose aux citoyens qui savent pas trop quoi répondre ou qui se posent des questions. Mais au fait, que répond la société civile en matière de protection de l'environnement? Que répond FNE à ce questionnaire? Vous trouverez les éléments sur notre site internet. Et donc, on est là pour porter certains messages que certains qualifient de militants, mais en tout cas qui visent assez haut les ambitions de protection de la ressource en eau. Et puis, d'un autre côté, voilà, à travers toutes les politiques publiques qui sont réalisées sur le territoire, à chaque fois qu'il y a des aménagements, que ce soit un lotissement, une deux fois deux voies, une zone logistique, je pense à Angers notamment, à la ZAC Océane, aux portes d'Angers, des choses comme ça, et ben on va regarder si l'aménagement a pris en compte les enjeux eau. Et si par exemple, s'il y a une destruction de zones humides, et ben s'il y a destruction de zones humides, nous on va mettre un carton rouge au projet d'aménagement. Si le grand cycle de l'eau sur le territoire n'est pas bien respecté, si on va détruire des haies, etc., on va mettre des cartons jaunes ou des cartons rouges au projet, soit en demandant à ce qu'il soit revu, pour pouvoir être accepté. Et si vraiment le porteur de projet ne change pas son projet, eh ben on est en capacité de s'opposer, d'aller attaquer en justice pour non-respect du code de l'environnement, par exemple.
Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact que vous avez avec toutes ces mesures?
Alors ça, c'est toujours compliqué, parce qu'effectivement, nous, on travaille aussi sur le temps long. Vous voyez, un projet d'aménagement d'une zone logistique ou d'un lotissement, ça se fait pas en 6 mois, ça se fait sur plusieurs années. Mais on remarque quand même que ces dernières années, que ce soit les élus, les chefs d'entreprise, ils ont une autre façon de voir le territoire, d'appréhender les choses. On sent bien que la prise en compte de l'environnement, et notamment les enjeux eau, est plus prégnante. Alors il y a toujours les contre-exemples, effectivement, mais si je regarde le verre à moitié plein, on peut remarquer quand même qu'il y a une meilleure prise en compte.
Xavier Mettez, vous restez avec nous, on continuera à parler de l'environnement, de l'eau et de son avenir juste après, mais on va d'abord passer à la chronique d'Adrien Capterien.
Adrien Capterien, dans Topette. Mais aussi chez lui, au travail, enfin partout.
Il y a un truc que je capte pas en ce moment, c'est la politique américaine. Mais bon, pour une fois, je pense que je suis pas le seul à pas la capter. Ce soir, c'est ma 12e chronique. Voilà, c'est ma 12e chronique. On m'a toujours pas donné le code du bâtiment de la radio, alors qu'on a donné les codes nucléaires à Donald Trump. Message reçu, du coup, je suis allé voir la concurrence. J'ai regardé toutes les chroniques de France Inter. Parce que nous, les humoristes, on a deux perspectives de carrière. France Inter et France Travail. Mais France Travail, leur chaîne YouTube, elle est quand même moins drôle. Et moi, surtout, je viens de faire ma demande d'intermittent du spectacle, donc je vais pas me fâcher avec France Travail en ce moment. Cœur sur vous, France Travail, j'adore ce que vous faites. J'ai aucune idée de ce que vous faites, mais vous le faites vraiment très très bien. Donc j'ai passé la nuit à observer les humoristes de France Inter et j'ai remarqué qu'ils bousculaient habilement leur auditoire en leur partageant des opinions tranchées sur des sujets clivants tels que le capitalisme, la guerre au Moyen-Orient ou encore l'agent orange du KGB, Donald Trump. Donc je veux bien essayer l'exercice, mais je suis pas sûr que mes opinions soient vraiment très intéressantes, parce que moi, comme tout le monde, je pense autour de cette table, je trouve que la guerre c'est mal, que Lidl c'est moins cher qu'Intermarché, mais que ça commence à s'embourgeoiser, et que l'abbé Pierre c'était mieux avant. Il y a beaucoup de gens où c'était mieux avant. Gérard Depardieu, par exemple, c'était mieux avant. Elon Musk, c'était mieux avant. Donald, c'était mieux avant. Avant Donald, c'était ça. Moi, je comprends que vous me donniez pas les codes de la radio, finalement. Non, avant Donald, c'était un canard. En 2025, Donald, c'est Francis Lalanne avec le bouton nucléaire. Moi, chaque matin, quand je me réveille, je regarde les nouvelles dingueries de Donald. Un jour, il conseille de boire de l'eau de Javel pour lutter contre le Covid. Le lendemain, il veut ouvrir un Club Med à Gaza et larguer une bombe nucléaire pour arrêter un ouragan. Et au fond, je me dis, laissons faire. Je veux dire, un pays qui s'auto-détruit en voulant faire exploser le vent. Est-ce que c'est pas ça le sens de l'évolution? N'empêche, on critique Donald, mais Donald y trouve des vraies solutions aux problèmes des Américains. Par exemple, dernièrement, il a signé un décret pour augmenter le débit de l'eau. Justement, on en parlait, des douches, parce qu'il n'arrivait pas à se laver les cheveux, Donald, parce que c'est pas facile à rincer l'eau de Javel. Donald, quand il a un problème, il signe un décret pour le régler. Il se fait tirer dessus, il interdit les armes à feu. Non, je déconne. Non, Donald, c'est quelqu'un qui agit vraiment. Depuis qu'il a été élu, il a supprimé le racisme, la pollution et le handicap. Enfin, il a supprimé les mots racisme, pollution et handicap. Il les a remplacés par... Excusez-moi. Non, Donald, il a édité une liste de 200 mots que les administrations doivent éviter d'utiliser. Par exemple, il déconseille d'utiliser les termes polarisation, équité communautaire, biais de confirmation. Il a interdit les mots qu'il comprenait pas, en fait. Moi, je pense que le prochain rapport du GIEC, c'est Martino Pôle Nord. Donald, il cherche des solutions simples pour régler des problèmes compliqués, quand en France, on cherche des solutions compliquées pour régler des problèmes qui n'existent pas. Par exemple, je sais pas si vous saviez, mais à Saint-James-sur-Loire, il y a un arrêté qui instaure la gratuité du parking pour les rennes du Père Noël. Un problème qui n'existe pas, puisqu'on sait très bien que le Père Noël est pété d'oseille et qu'il a tout à fait les moyens de payer son parking. Mais bon, comme dirait Donald...
Merci beaucoup Adrien, on te retrouve dans deux semaines. Est-ce que juste avant ça, tu aurais des actualités peut-être te concernant ?
Je sais pas, j'ai pas de mémoire, mais j'ai un site internet, c'est adriencoron.fr qui n'est pas à jour. Donc il y aura des actualités pas à jour.
Eh ben, on peut retrouver ça peut-être sur ton Insta alors plutôt. Et nous, on est toujours avec Xavier Mettet pour parler de l'environnement, de l'eau. Alors c'est vraiment un sujet de société crucial. Quel regard vous portez sur l'évolution de la situation environnementale ces dernières années ? C'est une question qui est mieux prise en compte qu'auparavant ?
Ben oui, effectivement. Enfin, en tout cas, elle est mieux prise en compte, elle est mieux comprise. On a eu des grandes avancées scientifiques ces dernières années qui nous ont permis aussi d'expliquer pas mal de choses entre des liens systémiques, voilà, des liens entre telle et telle espèce, tel et tel milieu. Si on commence à abîmer telle espèce ou tel milieu naturel, ça va avoir cette cascade de conséquences, même s'il en reste encore plein de choses à découvrir. Et puis, on a mieux expliqué les choses aux gens aussi, avec des actions de tous les jours, et qu'on regarde comment les citoyens agissaient dans les années 80-90 et comment on agit aussi aujourd'hui, que ce soit sur le tri des déchets, que ce soit sur nos questions de mobilité, sur les questions de consommation, effectivement, on voit qu'on a avancé. Après, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a avancé assez vite au regard du défi climatique, du défi de la chute de biodiversité ? Mais hélas, la réponse est sans doute non. On a encore beaucoup trop de choses qui viennent annihiler tous les efforts individuels. Et là, on rentre sur des décisions politiques ou des décisions d'orientation économique que l'on ne maîtrise pas, nous, simples citoyens. Et c'est là où, effectivement, on peut aussi, je pense, accuser nos politiques au sens large, mais aussi les grands décideurs économiques, de continuer dans un modèle qui est basé sur un modèle où on consomme de la matière première, où on consomme de l'espace, alors qu'il faudrait justement rentrer sur un modèle économique de sobriété qui nous permet justement d'assurer notre avenir. Quand je parle même pas de l'avenir de nos enfants aujourd'hui, hein, je parle de notre avenir à nous, puisque on a des délais là, 2050, 2100, que ce soit sur le climat, sur la biodiversité, qui sont assez effrayants. Voilà.
Et quel regard vous portez, quelle est la place qu'occupe la ressource en eau dans le débat environnemental ? Est-ce qu'elle est assez importante ou finalement pas assez au regard des enjeux ?
En fait, la question de la ressource en eau, de l'eau, tout simplement, c'est on en parle lorsqu'il y a des inondations. Donc voilà, on en a parlé cet hiver. On va en parler lorsqu'il y a des sécheresses, des canicules. On en a parlé beaucoup en 2022, un peu en 2023, dans nos régions où on a subi une forte canicule. Et puis comme en 2024, il a beaucoup plu, on s'est dit, ben voilà, l'eau n'est plus un problème. En tout cas, la question de la quantité d'eau, de la répartition de l'eau, de la ressource en eau n'est plus un problème. On passe à autre chose. Ben non, on ne peut pas passer à autre chose. C'est-à-dire que l'eau et sa protection, c'est un travail de longue haleine, que ça soit justement, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir replanter des haies, restaurer des mares, pour ralentir le rythme de l'eau, permettre au sol agricole et naturel de rejouer son rôle d'éponge pour justement moins subir lors d'épisodes de canicule et de sécheresse. Et ben ça se fait pas en 6 mois. Et c'est pas parce qu'on va planter 500 mètres de haies que ça y est, on est bien sur une commune, on a tout fait. Donc c'est vraiment comment dans l'ensemble de nos politiques, l'ensemble de nos actions, l'ensemble de nos projets économiques, on prend la question de l'eau à part entière de façon transversale et on va regarder comment on agit positivement ou négativement sur cette question-là.
Est-ce que vous pensez que l'eau, c'est une ressource qui est peut-être trop banalisée du grand public ? On se dit que c'est inépuisable ?
Mais comme beaucoup de choses, on pense que les éléments naturels sont inépuisables. Voilà, hein, l'électricité est inépuisable, les terres, la roche, le sable est inépuisable. La surface sur laquelle on peut construire est potentiellement inépuisable. Alors, on a quand même, aujourd'hui, on sait très bien qu'on est dans un monde qui est fini, avec des capacités limitées. Et l'eau, notamment, ben voilà, on connaît bien son fonctionnement, où est-ce qu'elle est stockée, comment elle percole dans le sol, où sont les réserves d'eau souterraine, comment fonctionne un fleuve. Et on arrive à prévoir en quoi le changement climatique va impacter la ressource en eau sur nos territoires. Alors, ce que nous disent les scientifiques, hein, c'est qu'à 2050, hein, d'ici 30 ans, 25 ans, il pleuvra autant sur toute l'année. On aura autant de précipitations, de quantité d'eau donc dans le Maine-et-Loire. Mais par contre, ça va être réparti de façon différente. On va avoir vraiment une saison des pluies, l'hiver, et puis une saison sèche, l'été. Et donc, comment on va faire en termes d'agriculture? Si on a beaucoup d'eau sur les terres agricoles, l'hiver qui nous empêche de faire les semis d'automne, et puis comment on fait si on n'a pas d'eau au printemps et l'été, qui nous empêche de faire les semis de printemps et de pouvoir justement récolter des choses ou même nourrir des vaches à l'herbe. Toutes ces questions-là, on va devoir y répondre là dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et il n'est pas trop tôt, mais il n'est pas encore trop tard pour y apporter des réponses. Donc, effectivement, c'est maintenant qu'on a beaucoup de responsabilités pour cranter les choses avec les acteurs économiques et les acteurs politiques pour décider dans quel monde on va vivre demain.
Et est-ce que nous, à notre échelle individuelle, on peut concrètement faire des petites choses dans notre quotidien qui pourraient un peu changer?
Ben oui, tout à fait. Alors, enfin, sur les questions de l'eau, alors ça peut en faire sourire quelques-uns encore. Tout à l'heure, Adrien nous a parlé du débit des douches aux États-Unis. Et effectivement, c'est passé là-bas comme quoi, dans certains États, ils avaient limité le débit de l'eau dans les douches pour faire des économies d'eau. Et Trump a balayé ça d'un décret en disant c'est des bêtises, ça ne sert à rien. Eh ben si, préférer une douche à un bain. Couper l'eau du robinet lorsqu'on se lave les dents, réutiliser l'eau de quand on lave sa salade pour aller arroser ses plantes sur son balcon ou dans son jardin. Tout ça a de l'intérêt mis à bout. C'est-à-dire, chaque petite goutte fait un fleuve et les fleuves font les océans. C'est une vérité. Après, on peut se dire, mais pourquoi moi je fais ça alors qu'à côté, l'agriculteur arrose ses champs de maïs alors qu'il est 14h et qu'il fait 40 degrés? Pourquoi je fais ça alors qu'on arrose la voirie ou les lignes de tramway en plein été? Voilà, donc c'est effectivement, les collectivités se doivent aussi de montrer l'exemple. Alors certaines disent, oui, mais c'est en volume, c'est pas beaucoup, en pourcentage, c'est pas beaucoup, donc je peux continuer d'arroser ma ligne de tramway, etc. Eh ben non, c'est l'exemple. C'est-à-dire, si moi, citoyen, je commence à faire un effort, et pour changer, je change mes habitudes, parce que c'est toujours compliqué de changer ses habitudes, je fais un effort, et puis que je ressors dans la rue, ou je vais en campagne, je vois les autres arroser à tout va, je dis, bah bon, c'est bon, allez, j'arrête, moi, ma douche, c'est rien à côté de ça. Eh ben non, c'est 1+1 va faire beaucoup à la fin.
Et c'est déjà bientôt la fin pour Topette. Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste, ou plutôt optimiste quand même, concernant l'avenir de l'eau, ou plus généralement de l'environnement?
Ah oui, je vais finir sur une note positive. Je suis optimiste parce que justement, si les citoyens que nous sommes, on se prend par la main, on réagit et on agit à notre propre échelle sans pouvoir tout faire, mais en faisant des petites choses et qu'on participe à cette consultation sur le SDAGE notamment pour donner nos avis sur les grandes questions, les grands sujets sur lesquels on veut travailler dans les années à venir, c'est important et je pense qu'on arrivera ensemble, collectivement, avec une intelligence collective, à améliorer les choses.
Merci beaucoup Xavier Mettet pour cet échange. On mettra donc évidemment la consultation en lien de ce podcast concernant le programme du reste de la semaine. Nous, demain, on sera avec le quai. Et je vous rappelle d'ailleurs que la salle Camille Lepage de la Maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin organise un concert ce samedi 26 avril au programme de la pop rock avec Toucan Toucan et de l'alternative Airbnb avec Chris Théodian. Et nous, on se quitte avec un nouvel épisode du Synops. Mathis et Emilien ont été voir Parthenop de Paolo Sorrentino. Pardon. Moi, je vous dis à demain et topette.
Le Synops, la splendeur du cinéma d'auteur avec Mathis et Emilien.
Bonjour et bienvenue à vous toutes et tous dans notre nouveau podcast Le Synops sur le film Parthenope de Paolo Sorrentino. Nous sommes allés voir ce long métrage le jeudi 13 mars à 21h, comme d'habitude au cinéma d'Arrêt et ses dangers des 400 coups. En quelques mots, avant que Mathis ne nous donne le synopsis, ce tout dernier film du réalisateur napolitain, puisqu'il ne se considère italien, aborde dans une immense mélancolie le rapport au temps et à la vieillesse, à travers le prisme d'une jeune femme à la beauté incomparable, incarnant avec finesse et sensualité le visage de la ville de Naples. Au casting, nous retrouvons Céleste Dalla Porta pour Parthénopée, Stefania Sandrelli dans le rôle de la Parthénopée mais version âgée, Gary Oldman en tant que l'écrivain américain John Cheever et enfin Silvio Orlando pour Devoto Marotta, le professeur d'anthropologie. Ce film est en salle aux 400 coups jusqu'au samedi 29 mars, dernière séance à 13h15. Mathis, c'est à toi pour le synopsis. Parthénopée, le récit d'une épopée féminine, plus exactement d'une sirène dépourvue d'héroïsme et éponyme antique de la ville de Naples qui se voit reprise de liberté après un parfait été à Capri, entourée d'une jeunesse insouciante qui lui fait voir d'autres horizons que des mondanités auxquelles elle est familière. Autour d'elle, les Napolitains, scrutés, aimés, désillusionnés et pleins de vie que l'on suit leurs dérives mélancoliques, leur ironie tragique et leurs moments de découragement. Ici, la vie peut être longue, mémorable ou ordinaire. Je vais commencer tout d'abord par déconstruire certains avis qui m'étaient parvenus avant que nous allions voir Parthénopée. Un matin, en écoutant France Inter, un journaliste dans sa critique considérait que le dernier long métrage de Paolo Sorrentino était misogyne. Grand amateur de ce cinéaste napolitain, cela m'étonnait, car bien que la question de la féminité dans la plupart de ses longs métrages soit souvent axée sur l'élégance et la séduction, jamais la femme, de quelque manière que ce soit, n'est réduite ni diminuée. Après la projection, j'ai donc compris une chose. Le journaliste en question n'avait probablement pas compris que les sous-titres en dessous de l'écran devaient être lus. Car si l'on ne regarde que l'écran, en effet, la beauté de Parthénopée est si majestueuse qu'elle attire tous les regards d'hommes attirés par son corps plus que par son esprit. Toutefois, et c'est ici le grand enjeu de ce long métrage, il n'est en rien misogyne, voire plutôt l'inverse, il est féministe. Pourquoi ? Eh bien, car il dépeint un regard masculin porté exclusivement sur la physionomie et en rien sur l'esprit et l'intellectualisme brillant que possède pourtant Parthénopée. Il renvoie donc l'image d'hommes idiots, trop concentrés sur le corps et pas assez sur l'esprit, ce que Parthénopée comprend et ce qui surtout la révulse. Pourquoi est-elle si amoureuse de l'écrivain américain ? Eh bien, car au-delà de sa beauté physique disgracieuse, elle succombe à sa plume. Amis critiques, parfois, ne vous fiez pas à vos premiers sentiments, apprenez plutôt à analyser avec profondeur.
Pour suivre, je dirais que ce film, c'est l'incarnation même de la beauté à l'écran. Bien qu'elle soit subjective, ici je mets quiconque au défi de contredire la poésie de Sorrentino avec Parthénopée. Mise en scène, symétrie, élaboration des plans, décors et colorimétrie plus que maîtrisée. Ici, tout passe par la plastique et la philosophie presque félinienne que nous offre Sorrentino. Ce film, il entremêle sensualité, surréalisme, déterminisme social, le merveille ou la douleur de l'âge, avec comme toile de fond l'humeur fâcheuse des Napolitains et leur histoire avec la maladie du choléra, sans oublier le rapport du film à l'eau et le mythe de la sirène.
Tout à fait. Le point félinien que tu soulignes, Mathis, est particulièrement intéressant. On considère souvent Sorrentino comme l'héritier spirituel du maestro de la grandiloquence italienne, Federico Fellini. Je dirais que finalement, Sorrentino a su se servir de cette capacité qu'avait Fellini à pouvoir rendre le cinéma comme une poésie visuelle en lui apportant une touche de modernité, mais en reprenant des codes scénaristiques similaires. C'est le cas dans une bonne partie de sa filmographie et ça l'est donc avec Parthénopée. On va suivre une protagoniste assez extravagante, avec une belle situation sociale, qui a finalement tous les atouts pour réussir, mais qui toutefois a le besoin de découvrir un sens et un mysticisme à sa vie si large que ça la rend profondément mélancolique. Ce désir dans lequel elle excelle, mais et c'est là le hic, personne ni même son directeur de thèse ne peut lui donner une définition de cette science. C'est pourquoi, dans une longue marche qui peut parfois paraître lente, elle va passer dans différents endroits, aussi métaphoriques qu'ils ne sont symboliques, pour trouver une réponse absolue. Je ne vais pas dire si elle va y arriver ou non, mais c'est là le parallèle entre Sorrentino et Fellini. Les deux ont cette aptitude à capter et à mettre en image des sentiments complexes d'une grande profondeur, que cela soit par le scénario, les acteurs, la lumière ou même la musique. Une grande qualité pour laquelle je ne lui trouve aucun égal aujourd'hui.
Et Paolo Sorrentino, avec Parthénopée, s'engage également dans la démonstration des injonctions données aux femmes et qui tente par tous les moyens de s'échapper de ce modèle traditionnel napolitain de femmes ménagères et d'hommes pourvoyeurs. Ici, la femme est la place centrale du film, qui s'émancipe intellectuellement par ses études en anthropologie, par sa liberté sentimentale, mais pas sexuelle, car ça c'est trop décevant pour elle et trop ennuyeux. On y remarque également sa volonté à sortir de ses carcans familiaux, et on le voit notamment avec la relation qu'elle entretient avec son frère.
L'un des grands points aussi avec Parthénopée, c'est le rapport au temps. Ce film est la chronologie d'une vie, de la naissance à la vieillesse et de toute la recherche d'un sens que je mentionnais un peu plus tôt. En combinant le temps des hommes à celui d'une ville de Naples, Sorrentino cherche à établir un consensus avec Parthénopée. Dans la mythologie grecque, Parthénopée est une sirène qui trônait devant Naples et qui a tenté de séduire Ulysse. Elle a malheureusement échoué et accablée, alors elle décide de mourir en se noyant. En quelques mots, ce film retranscrit à travers le prisme du destin tragique de la sirène, le lien étroit avec celui de Naples, une ville dans laquelle trônent la virginité et la candeur, au chant et à la fête, et enfin du désespoir jusqu'à la mort.
Et je rajouterais que Parthénopée, c'est surtout une allégorie qui ne prendra sens uniquement par la libre interprétation de chacun. Il est bien difficile dès la première visualisation de trouver des points d'accroche entre tous les éléments narratifs du scénario, la mer, la mondanité, les femmes et leur émancipation, et plus largement Naples et Capri. Film à l'esthétique foncièrement publicitaire, comme dirait Télérama, ou alors cinéma contemplatif et bien plus philosophique que l'on ne pense. Pour certains, ce film se résumerait à la vacuité, l'ennui et une carte postale égarée dans la file d'attente des copies de Fellini, alors que pour d'autres, ce serait un chef-d'œuvre subversif.
Finalement, comme toutes les productions signées Sorrentino, il n'y a pas une grande question, mais une pluralité, qui en plus caresse souvent des thèmes philosophiques ou misanthropiques, voire théologiques. Difficile alors de savoir parmi l'ensemble laquelle semble la plus appropriée. Tout de même, sur Parthénopée, une nous semblait intéressante. Qu'advient-il de nos jeunes années, plongées dans l'insouciance et l'extase, lorsque, passé un certain âge, celle-ci se fige dans un esprit qui n'a de cesse que le regret ?
Et voilà notre analyse sur le dernier film de Paolo Sorrentino, Parthénopée, le récit d'une épopée féminine qui entremêle sensualité, émancipation de la femme et son rapport à la vieillesse. En tout cas, on vous remercie chaleureusement de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On vous attend également, comme d'habitude, pour notre prochain numéro. Je rappelle, n'hésitez pas à suivre notre page Instagram, @lesynops, tout attaché. Jusqu'ici, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.
Au revoir.
Radio G, 101.5 FM.
think about worship. When you look out there, what you think about worship?
Savourez nos différences.